L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Jonas Pardo, militant antiraciste, conférencier et formateur antiraciste, directeur de l'association Boussole antiraciste, encore une fois. Alors, vous étiez à Strasbourg pour une conférence organisée par l'association pour une communauté plurielle intitulée « Reconnaître et affronter l'antisémitisme ». Jonas Pardo, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dénoncez aujourd'hui la politisation de l'antisémitisme. Vous êtes un homme de gauche, il faut le dire. Vous avez pris conscience, vous, de l'ambiguïté de certains partis politiques et encore plus aujourd'hui, depuis le 7 octobre. Expliquez-nous.
Eh bien, en fait, l'antisémitisme a toujours été une question politique. Lorsqu'il est formé à la fin du 19e siècle, il se présente comme un projet politique. On passe de l'antijudaïsme, qui sont des accusations religieuses envers les juifs, à l'antisémitisme qui lui est un projet politique. Et l'antisémitisme se prétend une critique basée sur les théories raciales, donc une pseudo-science d'un côté, et de l'autre, il se veut comme un projet de dénonciation de l'économie et du pouvoir. C'est pour ça que les militants politiques se revendiquent de l'antisémitisme. Donc il va prendre des formes exacerbées à la fin du 19e, on le sait avec l'affaire Dreyfus, où on a un groupe parlementaire qui se dit antisémite à l'Assemblée nationale, et ce moment de l'affaire Dreyfus va être un moment de clarification qui va donner les courants politiques qu'on connaît aujourd'hui, gauche et droite, le clivage se fait sur la question de l'antisémitisme. Donc la question politique, en fait, a toujours été présente dans cette notion, dans le débat et les raisons pour lesquelles il se diffuse dans la société. Ce qui se passe aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est que l'antisémitisme prend de nouvelles formes. Après la Shoah, on ne peut plus se dire antisémite comme c'était le cas à la fin du XIXe siècle. En effet, c'était un mot qui revêtait une connotation positive. Des personnes s'en revendiquaient. Mais après la Shoah, ce n'est plus possible. On ne peut plus se dire antisémite puisque c'est une notion qui est disqualifiée d'abord socialement, mais aussi juridiquement, avec l'élaboration d'un droit antiraciste tout au long du XXe et du XXIe siècle. Pour autant, l'antisémitisme n'a pas disparu. Loin de là, on le voit depuis les années 2000 où il réapparaît, et de manière flagrante depuis le 7 octobre où les faits antisémites sont peut-être relevé au quotidien en France et dans les pays où les juifs habitent. Donc la question qui se pose, c'est comment l'antisémitisme a pu perdurer et pourquoi existe-t-il toujours aujourd'hui alors que presque personne ne s'en revendique, même le Rassemblement national prétend lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui, ce qui rend le débat extrêmement compliqué.
Aujourd'hui, on va dire, les fondements de l'antisémitisme en France prennent leur source ailleurs que sur le territoire français ou européen ?
Non, on a de la production de discours antisémites made in France. Il y a soit dans des groupes militants de gauche, mais aussi de droite, de la production d'idéologies antisémites. On a une agitation notamment sur Internet. C'est quelque chose qu'on voit depuis les années 2000 avec la démocratisation d'Internet. Et notamment après le 11 septembre 2001, on a une explosion de théories complotistes. On l'a vu à diverses occasions, mais déjà après la mise en place de la commission pour la restitution des fonds spoliés, ce qui est un peu le début de l'augmentation des actes antisémites dans les années 2000. Il était insupportable pour les antisémites français et allemands que des réparations soient données aux juifs. Ça a pris un essor très fort, notamment avec le militantisme d'un Dieudonné, qui en a fait réellement son cheval de bataille, mais aussi un objet commercial, puisque la banalisation et la délégitimation de la Shoah a été vraiment au centre de son art, si j'ose dire. Il était humoriste, mais aussi de son activisme politique aux côtés de Alain Soral, donc figure de l'extrême droite, qui va être au bureau politique du Front National jusqu'en 2011. Ça d'une part, donc on a d'autres théories complotistes qui se développent tout au long des années 2000, 2010 et même 2020, notamment pendant la pandémie de Covid, où on a vu des centaines, peut-être des milliers de gens dans les rues avec des panneaux ouvertement anti-juifs. On a également l'antisémitisme qui surgit à chaque moment de tension au Moyen-Orient, où on a une explosion des actes antisémites, donc dans l'après-seconde intifada, et à diverses dates, que ce soit 2009, 2014 et après le 7 octobre. On a aussi la diffusion de discours djihadistes. C'est ça qui est à l'origine des attentats de la tuerie de Ozara Torah et de l'hypercachère. Et des formes, on va dire, plus classiques, hein, de l'antisémitisme toujours en circulation, que ce soit de manière théologique ou sur l'idée que les Juifs seraient féodés à Israël, un État étranger plutôt qu'à la France. Et oui, on trouve encore une littérature, d'ailleurs, qui peut circuler très facilement grâce à Internet. Oui, on a de la diffusion de l'antisémitisme en France, mais effectivement, pas uniquement. On a de la production d'antisémitisme, enfin, j'ai envie de dire un peu partout, en réalité. Mmh. Hein. Y a bien l'Iran qui organise un festival de caricatures négationnistes, qui réactualise des éditions des protocoles des sages de Sion, voire qui produit de l'antisémitisme. Il y a la Russie également, qui est un lieu de production important. Et je ne sais pas, des chaînes, Qatari. On a de la production de différentes provenances, on pourrait dire.
Aujourd'hui, vous êtes formateur contre l'antisémitisme. À qui s'adressent vos formations ?
Oui, alors moi, j'ai monté une association dont je suis directeur aujourd'hui et je propose des formations à la lutte contre l'antisémitisme. C'est-à-dire, je ne fais pas de la sensibilisation contre l'antisémitisme. Bon, j'en fais aussi, hein, des interventions de 2 heures en classe, etc. La conférence qui a été donnée lundi, c'est une sensibilisation, on peut dire. Mais ce que je fais, c'est vraiment de la formation à la lutte contre l'antisémitisme, c'est-à-dire je propose des outils de l'étude, mais aussi de l'entraînement pour vraiment se lancer dans le combat. Je trouve qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que l'imaginaire de la lutte contre l'antisémitisme, c'est surtout de l'affirmation dans les médias ou dans des conférences. Et moi, je pense qu'il faut aller sur un terrain particulier et travailler sur ce terrain. C'est-à-dire qu'il y a le terrain de l'éducation supérieure, par exemple, de l'université, où on a besoin en fait, de gens qui mettent en place réellement des partenariats, qui discutent avec les chargés inclusion, diversité, égalité ou contre le racisme, qui proposent des formations aux enseignants de diverses matières, mais je pense notamment à histoire, ça peut être toutes les sciences sociales en réalité, parce que ça peut se décliner sur la sociologie, en philo, dans différentes matières. Et c'est, je crois, le fait de travailler sur un terrain particulier qui permet réellement d'avoir de l'impact sur le long terme.
Aujourd'hui, la situation géopolitique, elle exacerbe les tensions, on parlait des universités, chez les jeunes justement, et ces manifestations pro-palestiniennes. Aujourd'hui, elles jettent une haine et elles mettent une cible dans le dos des Juifs.
Eh bien, à l'intérieur du mouvement de solidarité avec la Palestine, oui, il y a des expressions d'antisémitisme. On le voit déjà dans les faits. La question de... on le voit depuis les années 2000, les explosions de tensions au Moyen-Orient sont concomitantes à une augmentation des actes antisémites en France. Et dans le discours des agresseurs, prendre les Juifs pour cible serait un moyen de rentrer en solidarité avec les Palestiniens. C'est par exemple ce que dit Mohamed Merah quand il met une balle dans la tête de 3 enfants et d'un papa à la rentrée des cours un matin de mars 2012. Il dit « Je suis venu venger les enfants palestiniens ». Mais en réalité, il n'y a pas de lien logique entre tuer des enfants à Toulouse et sauver les enfants palestiniens. Enfin, la solidarité avec la Palestine peut être un combat totalement légitime, mais là, ce n'est pas ça dont il s'agit. Alors, mon hypothèse, c'est qu'il y a superposition. Il y a superposition entre des faits réels, le conflit israélo-palestinien, et des faits imaginaires. C'est-à-dire, lorsque Mohamed Merah pense venger les enfants palestiniens, finalement, je crois, bon, en tout cas mon hypothèse, c'est que ça a plus à voir finalement avec la réactivation de l'accusation de meurtre rituel, l'idée que les Juifs sacrifieraient les enfants pour extraire leur sang et en faire le consommer pour des rites religieux, une accusation qui s'est formée au Moyen-Âge, qui a été réactualisée de nombreuses fois. Et ça a plus à voir avec cette rumeur, cette accusation-là, qu'avec la situation géopolitique, puisque Mohamed Merah n'est pas un militant de la solidarité internationale quand il s'attaque à une école juive. Et donc, c'est-à-dire que, oui, les agresseurs, comme, plus proche de nous, ce monsieur qui tabassait un papy Marco, c'est comme ça qu'il était appelé dans les médias, au printemps 2024, à la sortie de la synagogue, d'une synagogue parisienne, il vient et lui dit « tu tues des Palestiniens ». Mais Papy Marco, 70 ans, ne tue pas de Palestiniens. C'est pas vrai. Donc, c'est-à-dire que cet agresseur-là considère des Palestiniens imaginaires. Il défend des Palestiniens imaginaires en réalité. Et son geste, évidemment, a plus à voir avec l'antisémitisme que la solidarité internationale.
Pour quelle raison ce conflit-là, précisément, cristallise autant les opinions, quelles qu'elles soient?
Eh bien, il y a beaucoup de raisons, en fait. C'est assez long pour dire pourquoi autant de gens regardent la situation au Moyen-Orient. J'ai envie de dire, voilà, c'est un vieux conflit, peut-être un des plus vieux au monde aujourd'hui. Donc, c'est un conflit qui démarre dans les années 20, donc il a près de 100 ans. C'est là-bas que se trouvent les lieux saints des trois religions, islam, christianisme et judaïsme. Et, il y a d'autres raisons qui font... comment le nationalisme arabe s'est emparé de la question israélo-palestinienne mais également les juifs de la diaspora. Le fait que la France soit le pays où il y a plus de juifs et le plus de musulmans en Europe est aussi un indice du fait que cette question tend et cristallise et polarise le débat public. Mais on va dire que cette question est aussi utilisée par et saisie dans le débat politique par plusieurs groupes politiques de tous bords et qui se servent du conflit pour fracturer, diviser, rassembler selon leurs opinions et selon à qui ils s'adressent dans le débat public en France. La question du conflit israélo-palestinien est souvent utilisée et souvent analysée par ces politiciens dans le cadre d'un conflit civilisationnel. C'est-à-dire qu'on en fait c'est une analyse, c'est une façon de regarder le monde complètement apocalyptique où s'affronteraient deux blocs monolithiques que seraient l'Occident et l'Orient. Bon, cette vision ignore les faits et la réalité. Puisqu'il n'y a pas de bloc occidental ni de bloc oriental. Pour s'en convaincre, on peut voir les alliances que Israël réalise, que ce soit avec le Maroc ou avec l'Arabie Saoudite ou d'autres. Dans les alliances politiques, on a la géopolitique, c'est compliqué. Mmh. On a Netanyahou et Trump qui sont alliés, Trump et Poutine avec l'ayatollah Khomeini. Et l'ayatollah Khomeini n'est pas allié avec Netanyahou, évidemment. Donc, on voit bien que cette lecture simpliste qui voit un affrontement civilisationnel entre l'Orient et l'Occident, elle n'est pas apte à décrire une réalité. Et ça, ce débat civilisationnel, finalement, c'est comme s'il était repris dans le clivage droite-gauche en France, où les droites auraient pris fait et cause pour l'Occident et les gauches pour l'Orient. Alors, dans la vision, antisioniste classique, celle qui a été développée par l'extrême droite après la Shoah, je rappelle que, il y a vraiment différents types d'antisionisme, mais un qui a été très fort jusqu'au moment de la dédiabolisation du Front National, et qui est porté par le Front National. D'ailleurs, François Duprat, un des fondateurs du Front National, créé une association pour la Palestine. Dans son esprit, Israël est en fait ce qui empêche la réunification des États arabes. Et c'est aussi la vision développée par les courants de l'islam politique, que ce soit de l'Iran au Hamas. C'est ça qu'ils disent, il faut supprimer Israël pour la réunification des États arabes. Bon. Avec des visions assez différentes. L'islam politique de l'Iran n'est pas l'islam politique du Hamas, qui n'est pas l'islam politique de l'État islamique. Mais néanmoins, cet antisionisme éradicateur, ils le partagent tous. Donc cette vision-là, finalement, elle a voyagé. Aujourd'hui, elle est vue de l'autre côté par l'extrême droite française et l'extrême droite israélienne, où Israël est vu comme un poste avancé de l'Occident au sein du monde islamique pour, selon dans leur vision, empêcher l'annihilation de l'Occident par l'Orient. Et à gauche, il y a une vue, j'ai envie de dire, symétrique en miroir, où cette analyse peut être prise pour dire finalement, pour passer d'un monde colonial à un monde post-colonial, il faut décoloniser la Palestine. Bon, c'est leur mot, pas les miens. Et donc, ils adoptent totalement cette grille civilisationnelle qui, pour moi, est non seulement... eh bien, ne fonctionne pas pour expliquer le monde et l'état des rapports de force, mais aussi précipite un affrontement entre les communautés en France ici. Et donc, dans notre livre « Petit manuel de lutte contre l'antisémitisme » et à travers les formations, eh bien, j'invite à regarder la situation réelle et également à trouver des portes de sortie à cette vision apocalyptique.
Vous avez une conférence, ce sera ma dernière question, Jonas Pardo. Alors, vous étiez à Strasbourg, vous allez peut-être dans d'autres villes. Quelle est la question récurrente du grand public ?
Ben, ça dépend vraiment des publics. Moi, j'ai la capacité à m'adresser à des gens très différents. Ici, à Strasbourg, donc, c'est dans la communauté juive. Mais moi, je m'adresse beaucoup à la gauche, aux syndicats, aux associations, aux médias, aux partis politiques. Des questions, j'en ai vraiment de toutes sortes. Mais celles qui reviennent le plus, c'est à gauche beaucoup des questions sur les juifs, comment les juifs perçoivent ce qui se passe aujourd'hui, et chez les juifs on me demande beaucoup comment la gauche perçoit ce qui se passe aujourd'hui. Et donc on a aujourd'hui une rupture presque totalement consommée, et elle correspond à un éloignement qui s'est fait j'ai envie de dire dans le tournant de la fin des années 90 qui, je crois, pour moi, est catastrophique et pour la gauche, qui se perd en abandonnant la question de l'antisémitisme, mais également pour les juifs. Pourquoi je dis ça ? Parce que voilà, je repense à un moment intéressant, c'est l'affaire de Carpentras, en 1990. Donc on a une affaire absolument horrible, une profanation de cimetière, vraiment, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, on a une exhumation de cadavres, etc., d'une dépouille, d'un corps. C'est très choquant, et l'opinion publique est absolument choquée. Et on a en fait des manifs monstres dans la rue. On a des centaines de milliers de gens qui descendent dans la rue pour dire non à l'antisémitisme. Et ça, on ne l'a jamais revu, en fait. On n'a jamais revu des mobilisations comme ça, où en fait... tous les gens en France disent on est choqués par cet événement. Des profanations de tombes, on en a eu des dizaines, peut-être des centaines depuis. Et jamais on a eu une mobilisation suite à ça. On a eu des choses beaucoup plus graves, les attentats par exemple, plus graves, je ne veux pas mettre un rapport de hiérarchie, mais je veux dire, quand on s'en prend au vivant, c'est encore autre chose. Et là, on n'a même pas eu ces mobilisations. Et une des explications, je crois, c'est dans les années 90, on avait des alliances horizontales avec la société civile. C'est-à-dire que le CRIF, quand il appelait à des mobilisations, il était en lien avec les leaders des syndicats, des associations, des leaders de la société civile. Et c'est ce qui permettait d'avoir des relais et qui faisait que cette question de l'antisémitisme pouvait être discutée tranquillement, sereinement, et ces alliances permettaient un combat commun dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement perdu. Et moi et d'autres, qui font partie de cette constellation des juifs de gauche, on espère, en tout cas, on pense que c'est une nécessité aujourd'hui retisser des liens pour qu'on puisse retrouver quelque chose de sain dans la société, que quand il y a un acte antisémite, la société entière soit choquée et dise non, on n'est pas d'accord.
Jonas Pardo, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.